L'ingénieux Ulysse aussitôt répondit : Monarque Alcinos, entre tous vénérable, certes il est beau d'ouïr ce chanteur érudit qu'aux habitants du ciel sa voix rend comparable. Rien, j'ose l'affirmer, n'est doux comme de voir un peuple réuni que la gaieté possède, des convives royaux écoutant un aède, tous assis au banquet qu'on eut soin de pourvoir de pain de mets choisis, cependant qu'au cratère les chansons puisent un vin qui passe au gobelet. Oui, de tous les plaisirs c'est le plus salutaire. Mais ton cœur sur mes mots veut des récits complets, afin que je m'afflige et pleure davantage. Par où donc commencer? Par quel détail finir, lorsque tant de malheurs m'échurent en partage? Sachez d'abord mon nom, pour vous en souvenir, et pour que, si j'échappe encore aux jours funèbres, je vous accueille aussi malgré l'éloignement. Je suis le Laertide Ulysse, si célèbre par ses ruses. Ma gloire atteint le firmament. J'habite la fameuse Ithaque, où se profile le Nérite élevé, sein d'arbres murmureux. Autour et se touchant, on distingue maintes îles, Dulichium, Samée, Zacinthe aux bois nombreux. Ithaque, la plus basse en la mer orageuse, gît au nord, et ses sœurs vers l'aube et le soleil. Âpre, mais de garçon nourrice courageuse, elle garde à mes yeux un charme sans pareil. Dans sa grotte isolée, adorable déesse Calypso m'arrêta, m'offrant sa douce main. En son palais d'Éa, Circé l'enchanteresse me retint à son tour, désirant notre hymen. Mais nul ne fléchit mon cœur dans ma poitrine, car rien ne vaut pour l'homme épatri et parent, quand même loin des siens, sur des bords différents, il jouirait en paix d'une maison divine. Maintenant, écoutez les rudes contretemps qu'au sortir d'Ilion, Jupiter me prépare. Le vent me met d'abord chez les Cicones d'Ismar. Là, j'emporte la ville, oxie les habitants. Nous prenons leurs trésors, leurs épouses timides. Le partage se fait, chacun à son butin. J'exhorte mes soldats à s'éloigner rapide, mais sans persuader leur contingent mutin. Ils boivent follement, et le long du rivage égorgent 1000 agneaux, force bœufs alourdis. Or, des Cicones fuitifs appellent au carnage d'autres Cicones voisins, plus nombreux, plus hardis, gens de l'intérieur habiles à défaire en selle ou même à pied des corps de combattants. Ils viennent dès l'aurore, épais comme au printemps les feuilles et les fleurs. Mais Zeus, déjà contraire, pour accroître nos maux contre nous se raidit. Vers nos vaisseaux légers il porte la bataille, du javelot des reins des deux parts on s'assaille. Tant que le matin dure et que le jour grandit, nous contenons le choc en dépit de la masse. Mais lorsque du soleil décline le flambeau, les Cicones triomphants des Grecs domptent l'audace. Six braves bien guettrés ont péri par bateau. Le reste heureusement échappe aux défilades. Nous reprenons la mer, charmés de vivre encore, mais tristes du trépas de nos bons camarades. Pourtant, au fin voilier, nous ne rendons l'essor qu'après avoir trois fois appelé chaque frère dans la plaine tombée sous le fer des Cicones. Soudain, Zeus de Borée excite la colère, déchaîne un ouragan, de nuages profonds couvre la terre et l'eau. Puis du ciel, la nuit tombe. Nos bâtiments surpris s'égarent. Les autans déchirent toute voile en lambeaux palpitants. Dans la cale, on les met, de peur qu'on ne succombe, et vers le continent, on manœuvre d'entrain. Là, deux jours et deux nuits, nous restons sur la plage, brisés par la fatigue, accablés de chagrin. Mais au troisième éclat de l'aube au doux visage, les mâts étant dressés, nos ailes se rouvrant, on repart. Le zéphyr, les nochers sont nos guides. Sauf, je crois, pour mon sol quitter ses champs liquides, quand au cap maléen, la vague, le courant est boré en courroux m'écarte de Cythère. 9 jours je vogue en proie à ce rude souffleur. Le 10e venu, nous abordons la terre des lotophages qui subsistent d'une fleur. Vite de débarquer, de puiser de l'eau fraîche. Près des nefs, mes compains font ensuite un repas. De boire et de manger lorsque nous sommes là, je choisis 2 guerriers qu'en avant je dépêche sous l'ordre d'un héros afin de découvrir quelle espèce de peuple enferme ces parages. Ils courent se mêler aux hommes lotophages. Ceux-ci, loin de songer à les faire mourir, leur offrent du lotus l'étrange régalade. À peine ont-ils goûté de ce fruit merveilleux, voilà mes éclaireurs du retour oublieux, tout prêts à demeurer parmi cette peuplade pour cueillir son trésor et vivre sans guignon. À bord, malgré leurs cris, ma vigueur les ramène, et je les fais lier au mât d'une carène. Puis j'ordonne aux restants de mes chers compagnons de remonter de suite à nos promptes galères, crainte de s'oublier en mangeant du lotus. À leur banc, aussitôt mes suivants sont rendus. Ensemble, ils tordent l'eau sous leurs rames scélères. De nouveau, nous allons, le cœur très soucieux, et nous touchons le sol des cyclopes superbes. Libres, se confiant à la grâce des dieux, leurs mains ne hercent pas, ne sèment jamais d'herbe. Tout sans grain ni labeur pour leur table fleurie, les orges, le froment et la vigne qui portent des grappes de raisins qu'en pleuvant Zeus mûrit. Ils n'ont point d'agora, de loi d'aucune sorte, mais ils vivent épars sur la crête des monts, dans le creux des rochers. Maître en sa grotte obscure, chacun régit les siens et des autres n'a cure. Une îlette se dresse en face des limons du port cyclopéen, ni proche ni distante. Boisée, elle nourrit d'innombrables chevreaux sauvages, car du pied nul ne les épouvante. Les chasseurs, coutumiers de périlleux travaux à travers bois et rocs, ignorent ces retraites. Point de pâtre en leur sein, point d'ouvreurs de sillons. La terre sans culture est vide de colons et ne sert qu'aux broutées des bêlantes chevrettes. Les cyclopes n'ont pas de navires rougis, n'ont pas de charpentiers qui sachent leur construire de solides bateaux propres à les conduire. Pour leurs besoins communs, vers les humains logis, comme tant de mortels qu'à se voir l'eau provoque, il manque d'ouvriers pour enrichir l'îlot. Sol propice, il rendrait des fruits à toute époque. Une molle prairie au bord du vaste flot se déroule, et la vigne y pousserait durable. D'un facile labour, l'humus chaque saison donnerait, étant gras, des épis à foison. Le port n'exige pas d'amarre secourable. Sans le soutien de l'ancre et des câbles jetés, les marins peuvent là faire un séjour placide, au gré de leurs désirs, jusqu'au vent souhaité. Dans le fond de la rade, une source limpide jaillit d'un antre frais d'eau environnée. Un dieu vers cet abri pendant une nuit sombre dirige mes rameurs. Rien ne perçait dans l'ombre. Le brouillard étreignait la flotte, et Sélénée, au lieu de resplendir, se couvrait de nuages. Personne alors ne voit l'îlette de ses yeux, ni les lames roulant à l'assaut des rivages, avant que nos vaisseaux atterrissent joyeux. Tout navire au mouillage, on range la voilure, puis on descend au bord de l'humide séjour. Et nous nous endormons en attendant le jour. dès que reparaît l'aube à la rose figure, nous circulons dans l'île avec ravissement. Les nymphes de l'endroit, filles du port Égide, font lever des chevreaux bons pour notre aliment. Sur leurs arcs recourbés, épieux au bois solide, viennent de chaque barque et travaillent, brandis par trois groupes. Un dieu nous fournit maintes proies. 12 nefs me suivaient. À chacune, on octroie 9 de ces animaux, la mienne en reçoit 10. On passe tout le jour jusqu'au soir incolore à savourer des mets de vin pur arrosé. Car nos vins n'étaient pas tout à fait épuisés, il en restait beaucoup dans tel et tel amphore soustraite par ma bande aux murcins des cicônes. Mais l'on voit s'allumer les feux du bord cyclope. Nous entendons bêler ses chèvres, ses moutons. Le soleil s'est couché, la nuit nous enveloppe. Des réchefs nous dormons sur le sable épaissi. Lorsque reparut l'aube à la face pourprine, je réunis mes gens et les harangue ainsi. Demeurez à présent, chère troupe marine. Moi, je vais sur ma nef, suivie de mes guerriers, reconnaître là-bas ces nouveaux insulaires, savoir s'ils sont méchants, injustes et colères, ou bien religieux, partant hospitaliers. Alors, me rembarquant, j'ordonne à mon élite d'accourir au tillac, de larguer le câbleau. Mes hommes à leur banc se réinstallent vite, et de l'active rame, ensemble, ils frappent l'eau. Quand nous avons atteint cette rive assez proche, nous voyons, près des flots, à ses confins derniers, une caverne haute et noire de lauriers. Chèvres, brebis en foule ont leur parc sous sa roche. La cour ronde a pour mur d'immenses blocs pierreux, entremêlés de pins, d'ormeaux à vaste cime. Là réside un pasteur de stature altissime, qui paie seul son bétail, des autres dédaigneux, et dans l'isolement pratique l'injustice. C'est un monstre effroyable. Il ne ressemble pas au commun des mortels, mais au mont qui hérisse son cône chevelu sur des sommets plus bas. J'invite les garçons de mon cher équipage à garder le bateau près du bord écumeux, et je pars en menant 12 hommes de courage. J'emportais dans une outre un vin noir et fameux dont m'avait honoré Maron, le fils d'Évante, pontife d'Apollon, d'Ismar citoyen. Lui, sa femme et son fils, nous les avions d'entente protégés par respect, car il était gardien du saint bois de Phébus. J'en reçus des dons rares. 7 talents d'or massif d'un travail souverain. Ensuite, un bol d'argent. Finalement, sa main avait puisé pour nous, au sein de 12 jarres, un vin pur, généreux, céleste. En sa maison, nul ne le connaissait, ni servant ni servante. Seuls y touchaient Mareux, sa femme et l'intendante. Quand on devait goûter cette riche boisson, dans 20 mesures d'eau l'on en noyait un verre. Et du cratère alors montaient 1000 fumées, si divins que de boire on ne s'abstenait guère. À l'outre de nectar, j'avais joint force mets en un sac, car mon cœur pressentait la rencontre d'un homme possédant un biceps indompté, rebelle au frein des lois, plein de férocité. À l'antre nous voici. Le géant ne se montre. Il menait ses troupeaux tondre les mailles des prés. Nous entrons et nos yeux admirent toutes choses. Fromage dans l'osier, étable où repose l'agneau, puis les chevreaux, tous pourtant séparés, les vieux au premier rang, les jeunes à la suite, plus loin, les nouveau-nés. D'abondants petits laits, vase à traire ou bassin, l'argile ruisselait. Mes compagnons, d'abord, m'excitent à la fuite, quelques fromages pris et le bétail chassé en hâte hors des parcs vers l'argile trirème, qui nous eût ramenés dans notre rade même. Je méprise la vie, quoiqu'il fût très sensé. Je veux voir le cyclope et ses dons, les surprendre. Là, comme ce doucet doit nous gratifier. Nous allumons du feu, puis de sacrifier décorné main fromage. Enfin, assis, d'attendre son retour du pâti. Il arrive, portant pour cuire son repas une énorme broussaille. Il la décharge au seuil et la grotte en tressaille. Au fond, épouvantés, nous fuyons à l'instant. Le pasteur pousse alors ses troupeaux gras dans l'antre, les femelles du moins pour les traire, empêchant que nul mâle au bercail, beaucoup bélier, ne rentre. Puis à l'entrée, il roule un bloc effarouchant, masse que 22 chars à la quadruple roue ne pourraient déplacer en leurs efforts subis. Tel est le bloc fermant qu'à sa porte il échoue. Bientôt assis, il traite ses chèvres, ses brebis comme il convient et rend leurs petits aux nourrices. Ensuite, il fait cailler la moitié du lait blanc, le dépose et l'entasse au milieu des éclisses, versant l'autre moitié dans main vase au gros flanc pour le prendre et le boire à son souper tranquille. Après avoir fini cette œuvre en un moment, il allume un grand feu et nous voit. Et vivement, « Étranger, nommez-vous. Qui vous pousse en mon île? Est-ce une affaire ? Ou bien errez-vous comme font ces pillards qui, sur mer, jouant leur existence, écument un pays, le ruinent à fond. » Nous sentons une frayeur intense à cette voix terrible, à cet air monstrueux. Cependant, je réponds, raffermissant mon âme. Nous sommes des Grégeois revenant de Pergame, égarés sur les flots par l'air tempétueux. Nous cherchions nos rochers et trouvons d'autres croupes. Sans doute c'était là de Zeus la volonté. Nous nous glorifions d'appartenir aux troupes d'Atrides d'Agamemnon, ce chef partout vanté. Car il prit d'Altiémur une contrée entière. Maintenant, à tes pieds, nous venons en amis et réclamons de toi la table hospitalière ou quelques doux présents, suivant l'usage admis. Homme bon, pense au ciel, exauce ma supplique. Zeus qui guide les pas du timide étranger, Zeus, ce dieu xénien, ne tarde à les venger. Le barbare en ces termes réplique. Guerrier, tu perds la tête ou tu viens de très loin, toi qui parles d'aimer, de craindre un ciel rigide. Un cyclope se rit du maître de l'Égide et des dieux immortels. Il les dompte au besoin. Je ne t'épargnerai, ni toi ni ton escorte, pour fuir les traits de Zeus, si mon cœur n'y consent. Mais compte où tu laissas ton bateau valissant. Est-ce loin, près d'ici? Ce détail-là m'importe. Il voulait m'éprouver, mais je sais plus d'un tour. Aussi, je lui réponds ces mots pleins d'artifice. Neptune ébranle le sol à l'extrême contour de votre île, a rompu mon flottant édifice sur les écueils d'un cap. La mer a ses débris. Intact avec mes gens d'échapper, j'eus la chance. Lui se tait dans un cruel mépris. Mais sur mes compagnons bras tendus, il s'élance, en saisit deux, les choque ainsi que d'humbles fans contre terre. En bouillie éclate leur cervelle. Il les coupe en morceaux, les mange pêle-mêle. Comme un lion sorti des déserts étouffants, il baffre tout, les chairs, les os moelleux, les tripes. À ce spectacle affreux, nous levons en pleurant les mains vers Jupiter. Le désespoir nous prend. Lorsque de corps humains ce monstre aux vastes lippes s'est bourré l'estomac, il boit des flots de lait. Puis, parmi ses moutons, pesamment, il s'allonge. Dans mon cœur magnanime, au même instant, je songe à dégainer mon glaive, à le frapper d'un trait, en le tâtant d'abord au point juste où le foie se joint au diaphragme. Une pensée me retient. De la mort, nous étions par avance la proie. Jamais du lourd rocher qui dedans nous maintient tous nos bras n'auraient pu déranger la barrière. Donc il faut, jusqu'à l'aube, attendre en gémissant. Quand elle teint les cieux de sa rose lumière, il rallume un grand feu, traite son bétail puissant, rend aux saints nourriciers leurs jeunettes phalanges. Après avoir fini promptement ses travaux, Déréchef, il saisit deux des miens et les mange. Son repas fait, il chasse au dehors ses troupeaux en déplaçant le bloc sans peine. Mais de suite il le remet, tout comme un couvercle au carquois. Le cyclope à grand bruit pousse sa herde instruite vers les monts. Moi, je reste à rêver des exploits, désirant me venger si m'exauce m'énerve. Or, voyez le parti que j'adopte soudain. Le pâtre dans un coin avait mis en réserve un tronc vert d'olivier pour s'en faire un gourdin une fois desséché. Nous comparions sa taille à celle d'un grand mât d'un vaisseau de transport qui de 20 avirons au flot livre bataille. Tels étaient sûrement son volume et son port. J'en coupe sans tarder la longueur d'une brasse et la livre à mes gens afin de l'amincir. Ils vont la polissant. Moi, j'affie le tenace un des bouts qu'au feu vif après je fais durcir. J'enfouis prudemment cette partie insigne sous les tas de fumier dont s'encombre le lieu. Ensuite, je prescris que le sort nous désigne ceux qui devront m'aider à planter notre pieu dans l'œil du monstre quand le vaincra le doux homme. Les quatre élus au sort sont ceux-là justement qu'avec moi j'aurais pris. Je suis le cinquième homme. Au soir rentre le maître et son bétail gourmand. Le géant pousse au fond toute la bande grasse et dans la cour ne laisse aucun sujet pelu, soit qu'il ait des soupçons, soit qu'un dieu l'ait voulu. Puis, soulevant le bloc, il le remet en place. Bientôt assis, il traite ses chèvres, ses brebis comme il convient et rend les agneaux à leur mère. Sitôt qu'il a mis fin à ses préliminaires, il saisit, mange encore deux des miens et bobis. Moi, tenant de vin pur une écuelle pleine, au cyclope je vais et dis à ce bourreau : tiens donc, cyclope, et bois sur cette chair humaine. Pour savoir quel bon vin contenait mon vaisseau, je t'en rapporterai si par miséricorde tu me laissais partir. Mais ta rage est sans frein. Ô fou, comment veux-tu que désormais t'aborde un des nombreux mortels, puisqu'ainsi bat ton sein ? Il prend la coupe et boit. Ce fin breuvage l'égaie. Il m'en demande une seconde fois. Verse encore de bon cœur, et dis-moi sans embâge ton nom, pour que je t'offre un don des plus courtois. Pour le cyclope aussi, ce doux sol entrecroise de beaux ceps que mûrit l'arrosage divin. Mais ton jus semble fait de nectar et d'ambroise. Dans sa coupe aussitôt, je rajoute du vin. Trois fois je la remplis, trois fois le seau la vide. Dès que mon vin de flamme a troublé sa raison, je lui lâche ces mots d'une douceur perfide. Cyclope, tu t'enquières de mon illustre nom ? Eh bien, à ta promesse en retour, sois fidèle. Je me nomme Personne. Oui, Personne, vraiment. Père et mère récompens, chacun ainsi m'appelle. Le glouton me riposte impitoyablement. Après ses compagnons, je mangerai Personne. Les autres avant lui. Ce sera mon cadeau. Il se renverse et tombe et s'abandonne, son gigantesque cou penché. D'un lourd bandeau le sommeil l'enténèbre. En masse on le voit rendre du vin d'horrible chair, puis il rote, ivre mort. Je glisse alors le pieu sous une chaude cendre jusqu'à ce qu'il soit rouge. et j'encourage fort mes quatre aides, craignant que l'un d'entre eux ne recule. Quand le bois d'olivier menace quoique vert de s'allumer, qu'autour une flammette ondule, du feu je le retire, et mes preux de concert m'entourent, un démon les vigorise encore. Empoignant l'arme aiguë, au plein de l'œil baissé, il l'enfonce, et moi, sur mes orteils dressés, je la tournoie. Ainsi, quand l'artisan perfore un madrier, sous lui d'autres mains font mouvoir la tarière creusante avec un cuir agile. D'eux-mêmes nous tournions dans l'orbite fragile ce tison embrasé d'où ruisselle un sang noir. La prunelle en feu brûle et sourcils et paupières. Les racines de l'œil pétillent bruyamment, comme lorsqu'en l'eau froide un forgeur véhément fait siffler une hache ou des lames guerrières, procédé qui fournit les fers les mieux trempés. Ainsi, l'œil du colosse autour du bois crépite. Il lance un hurlement dont les airs sont frappés. Nous de fuir, pris de peur. Cependant, de l'orbite, ses mains ôtent le pâle souillé d'amas sanguin. Puis, outré de fureur, au loin, il le rejette. Il appelle à grands cris les cyclopes voisins, qui, sur les caps venteux, ont leurs roches secrètes. Leur foule à son appel accourt de tous côtés, et debout près du seuil, l'interroge anxieuse. « Polyphème, pourquoi ces mon cri répété? Pourquoi nous réveiller pendant la nuit joyeuse? T'aurait-on malgré toi dérobé ton troupeau? Quelqu'un t'oxyrait-il par ruse ou violence ?» La brute leur répond du sein de son caveau. « Personne, ô mes amis, par dol, non par vaillance !» Les cyclopes alors, sans plus ample discours, « Puisque dans ton abri personne ne t'afflige, accepte résigné les maux que Zeus inflige. De Neptune ton père invoque le secours. » Ils s'en vont tous, et je me réconforte du succès de mon nom, de mon tour des meilleurs. L'aveuglé, soupirant et rongé de douleur, en marchant à tâtons, va débloquer la porte. À l'entrée, il s'assied, les deux bras étendus pour happer tel de nous qui fuirait joint aux bêtes, tellement il croyait mes esprits confondus. Je cherche cependant quelles mesures nettes pourront nous affranchir d'un trépas redouté. Je combine des plans, des trucs de toute espèce. Notre vie en dépend, un grand péril nous presse. Or, sachez le parti qu'à la fin j'adoptais. Des béliers étaient là, d'une rondeur sensible, beaux, grands, et que recouvre une épaisse toison. Je les lis, en silence, avec l'osier flexible où dormait ce géant, type de trahison. Je les mets trois par trois. Le central porte un homme. Les deux autres devront protéger en flanquant. Donc, pour un guerrier seul, trois animaux de somme. Restait un gros bélier, de tous le plus marquant. Au dos, je le saisis, me roule sous son ventre et m'accrochant des mains à son manteau fourré, dans un calme absolu d'aguet, je me concentre. Nous attendons ainsi le jour d'un cœur navré. Quand l'aurore effeuilla ses roses matinières, les béliers diligents coururent au paissant. Dans l'étable bêlaient leurs femmes routinières, le sein dur et pendant. Agité de frissons, le cyclope tâtait les houleuses échines du bétail mâle. Mais l'ahuri ne sent pas mes compagnons blottis sous de sombres poitrines. Enfin, le grand bélier après tous vient au pas, chargé de son lainage et de mon être habile. Polyphème lui dit, l'ayant bien caressé, « Cher bélier, pourquoi donc, toi, le vieux chef de file, venir en queue? Avant, loin d'être devancé, le premier tu savais brouter la fleur champêtre. Des fleuves, le premier tu sondais le courant, et le premier rentrais au bercail attirant. Aujourd'hui, te voilà le dernier. De ton maître regretterais-tu l'œil? Un méchant l'a crevé, aidé d'affreux soldats, me domptant par l'ivresse. c'est personne. Il n'est pas certes encore sauvé. Ah, si doué de sens d'une parole expresse, tu me disais quel coin à mes coups le soustrait. Écraser aussitôt sa cervelle brouillonne irait joncher le sol. Cela mitigerait les maux que m'a causés l'exécrable personne. À ces mots, au dehors, il lâche le bélier. Parvenu loin de l'antre et de la cour ovine, je reprends terre et cours mes compains déliés. Lestement, nous poussons par sentier et ravin le troupeau bon marcheur jusqu'au navire ancré. Nous revoir sains et saufs pour ma troupe a des charmes, mais luctueusement, chaque mort est pleurée. Moi, fronçant les sourcils, j'interromps toute larme et prescris d'embarquer en hâte les captifs à la belle toison, puis de repasser l'onde. Mes rameurs vont s'asseoir à leurs bancs respectifs. D'un aviron rapide, ils creusent l'eau profonde. Lorsque du large encore peut s'entendre ma voix, je darde au vil pasteur cette railleuse insulte. Cyclope, tu n'as point dans ta demeure occulte mangé violemment les amis d'un pantois. Le châtiment devait t'atteindre, misérable, qui de tes suppliants t'ai fait le dévoreur. C'est pourquoi Jupiter, tout l'Olympe, t'accable. L'apostrophe ironique augmente sa fureur. D'une haute montagne, il arrache la crête et la lance en avant du bleuâtre vaisseau. Peu s'en faut qu'à la proue elle note un morceau. La mer bouillonne au choc de la masse concrète. Le flot en refluant remporte notre nef vers la côte inondée, au rivage l'affale. Prenant à pleine main une pique navale, du bord je la repousse et somme d'un ton bref mes robustes nageurs d'accélérer leur rame afin de réchapper. Ils redoublent d'élan. Quand nous sommes deux fois aussi loin sur les lames, je veux recommencer mes adieux virulents. Tous m'adjurent en cœur de garder le silence. Téméraire, pourquoi courroucer ce cruel ? Déjà, nous ramenant aux profondeurs de l'anse, son roc nous menaça d'un trépas mutuel. S'il entend de nouveau tes cris, une parole, il brisera nos fronts, notre mince plancher sous d'autres blocs précis. Telle est leur parabole. Ces prudentes raisons ne sauraient me toucher, et je recrie au monstre en ma rage frondeuse. Cyclope, si quelqu'un de ce monde animé te demande d'où vient ta cécité hideuse, dis-lui que t'aveugla l'assiégeur consommé, Ulysse, roi d'Ithaque, engendré par Laërte. Le sauvage en hognant a soudain réparti. Grand Dieu, l'oracle ancien n'avait donc pas menti. Chez nous fut un devin à la pensée alerte, Télème Rimides, dont l'art fit notre orgueil et qui mourut prophète au milieu des cyclopes. Tout devait arriver d'après ses horoscopes. La main d'Ulysse un jour devait m'extirper l'œil. Mais quoi ? Je m'attendais toujours à voir paraître un homme grand et beau, de force revêtu. Et voilà qu'un vilain, un abot, un fétu m'enlève la lumière à l'aide d'un vin traître. Ulysse, viens ici, mon offrande t'attend. J'inviterai Neptune à choyer ton navire. Je suis son tendre fils, il se plaît à le dire. Seul il me guérira, si son cœur le prétend, et non pas ceux d'en haut ou l'humaine science. Je lui riposte alors d'un formidable ton. Puissais-je, t'arrachant l'âme et l'existence, te faire voltiger au gouffre de Pluton, aussi vrai que ton dieu ne te rendra la vue. Lui, de prier son divin géniteur, en élevant les mains vers l'astral étendu. Écoute-moi, Neptune, ô noir agitateur, si je naquis de toi, si tu te dis mon père, fais qu'Ulysse jamais, ce foudre itacéen par Laërte engendré, ne retourne en sa terre. Mais si le sort là-bas le ramène à son dessein, s'il lui rend ses amis, son paternel empire, qu'il rentre tard et mal, sans un seul partisan, sur un pont mercenaire, et que son deuil soit pire. Tel gronde son souhait, qu'exauça le tyran. Notre ennemi soulève une plus vaste pierre, la balance et sur nous l'envoie à tour de bras. De la poupe azurée, elle frise l'arrière. Le timon a failli voler en mille éclats. La mer se gonfle au choc de la masse compacte, mais cette fois nous pousse et nous laisse à bon port. De retour dans l'îlette où ma flottille intacte stationnait toujours, tandis qu'au long du bord la troupe gémissait, lasse et désespérée, notre nef sur le sable achève ses trajets, et nous-mêmes foulons la grève désirée. Du cyclope on débarque ensuite les sujets. On en fait plusieurs lots, chacun à part égale. Des bons distributeurs, moi, je reçois en plus le grand bélier. Ma main le tue et le régale à Zeus, l'altiéchronide aux décrets absolus. Je brûle les fémurs. Mais le dieu n'y prend garde. Il ne songe qu'à perdre en ses ressentiments mes braves compagnons, mes fermes bâtiments. Nous passons tout le jour jusqu'à l'heure blafarde à savourer des mets de vin pur arrosé. Quand le soleil s'éteint et que règnent les ombres, nous nous endormons tous auprès des vagues sombres. Mais lorsque reparaît l'aurore aux doigts rosés, stimulant mes marins, vite je leur ordonne de monter au tillac, de larguer les câbles. À leur banc vont s'asseoir les ailés matelots et sous les avirons, l'onde écume et résonne. Nous reprenons la mer, heureux d'être sauvés, mais tout bas, regrettant nos amis enlevés. L'Odyssée par Homère. Traduction par Ulysse de Séguillé. Lecture par Charlène Torres. Composition et interprétation des musiques par Alexandre Jonet.